Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien, comme Samuel m'a déjà présenté. Content de vous voir. Surtout si vous êtes ici pour la première fois, j'espère que vous vous sentez accueillis chaleureusement parmi nous. On va maintenant lire le texte. Vous avez le texte à l'intérieur de votre livret. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de prédications dans le livre, dans la lettre de Paul aux Philippiens. C'est l'un de mes livres préférés de la Bible. C'est pas pour ça qu'on le prêche, mais ça tombe bien. J'ai le privilège de démarrer cette série. Et donc, on va lire ce texte maintenant. Donc, merci de prendre vos Bibles ou vos livrets. Philippiens 1, versets 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur. Et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Merci de prier avec moi pour l'aide du Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour ta parole. Merci pour cette très belle lettre aux Philippiens qui déborde de joie, de reconnaissance, mais qui nous met aussi au défi. Que tu puisses nous parler par ton Saint-Esprit. Donne-moi d'être clair et fidèle et que tu puisses être à l'œuvre dans nos cœurs pour qu'on soit saisi par la beauté de l'Évangile et par la beauté de la mission que tu nous as donnée. Et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. À quel type de projet est-ce que tu aimes participer? Qu'est-ce qui te fait sortir de ton lit le matin? On aime participer aux projets qui nous passionnent, qui ont de la valeur à nos yeux. Et surtout si c'est avec d'autres personnes qui partagent la même passion. Il suffit de considérer là où vont tes pensées dans tes moments libres, dans la voiture ou dans la douche, avant de s'endormir. Peut-être que pour toi, il n'y a rien de plus beau que d'être parmi une foule de supporters en train de regarder ton équipe de foot. Ou peut-être que tu aimes l'ambiance au travail, parmi vos collègues, tes collègues, quand vous êtes sur le point de conclure un accord vraiment lucratif. Ou peut-être que tu rêves des prochaines vacances, tu es impatient pour la prochaine occasion pour aller vivre, profiter de la bonne vie au soleil. Ou peut-être que c'est un projet personnel, ton jardin, un instrument de musique, le fitness. Peut-être que tu prends du plaisir de planifier des sorties en famille ou tu rêves de voir tes enfants réussir dans la vie. Ou peut-être que c'est lutter pour une cause sociale. Combattre la pauvreté, l'injustice. Ou peut-être que juste Se vivre de jour en jour te suffit en ce moment. Tu es trop occupé pour avoir des projets passionnants, trop malade ou trop vieux. Tu as peut-être même du mal à trouver une raison de sortir de ton lit le matin. Et s'il y avait un projet bien plus beau, plus passionnant, plus précieux que toutes ces choses, et si ce projet était une nécessité pour chaque personne dans cette salle, et si ce projet, la participation à ce projet, était décisif pour notre éternité. C'est cela le thème principal de la lettre aux Philippiens. Philippe, c'était l'une des villes principales en Macédoine, aujourd'hui en Grèce orientale. L'église à Philippe était fondée par Paul. Vous pouvez lire l'histoire dans Actes 16. Et c'était la première église fondée en Europe, en fait. Et Paul a écrit cette lettre environ 10 ans plus tard, vers l'an 62. Et en lisant cette lettre, on a l'impression que cette jeune église allait plutôt bien. Il n'y a pas de grande hérésie théologique, pas de grande faute morale, pas de relâchement spirituel. En fait, on trouve des chrétiens fidèles, mûrs, stables, enfin, des chrétiens qui participaient au plus beau projet. Et donc, voici la première chose, si vous voulez, dans vos livrets, vous avez le plan de la prédication, la première chose qu'on veut apprendre de leur exemple. Vous êtes partenaires dans l'Évangile, réjouissez-vous. Et donc, je demande peut-être surtout aux ados, j'allais dire, pour les ados, n'hésitez pas non plus à prendre des notes, c'est très utile de prendre des notes sur la feuille dans le livret. C'est notre premier point. Réjouissez-vous, vous êtes partenaire dans l'Évangile. Comment est-ce que tu commences une lettre à un très bon ami que tu n'as pas vu depuis un moment? Ok, bon, j'imagine que très peu d'entre nous ont l'habitude d'écrire des lettres. Ok, on va imaginer que c'est un message vocal sur WhatsApp. Comment est-ce que tu commences? Hey, salut Frangin, il pleut ici. J'espère qu'il fait beau chez toi. Non, c'est trop banal ça. Ou, salut Frangin, comment est-ce que tu vas? Écoute, tu veux rejoindre mon entreprise? Non, ça c'est trop direct. Non, tu veux tout de suite rappeler à ton ami combien tu apprécies votre amitié. Hey, salut Frangin, ça fait un moment que tu me manques vraiment. Trop envie de te voir. J'espère que tu vas bien. Et c'est comme ça, Paul commence en rappelant à ses amis combien il les apprécie. Verset 1, il les appelle les saints en Christ Jésus. Pas les saints comme Saint-Pierre, etc. Tout chrétien est un saint. Non pas parce que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, au contraire, comme Paul nous rappelle dans le chapitre 3 de cette lettre, nous n'avons pas une justice qui nous est propre. C'est Jésus qui a pris sur lui nos fautes, nos péchés sur la croix, et nous a revêtus de sa justice. Nous sommes donc saints en Christ. Et puis il souhaite, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les deux dons de Dieu les plus fondamentaux. La grâce, la faveur imméritée de Dieu, c'est le moteur derrière la croix. Et puis la paix avec Dieu et les uns avec les autres, c'est la bénédiction principale qui découle de la croix. Paul veut encourager ses amis tout de suite par un rappel de l'identité la plus fondamentale de tout chrétien. Vous êtes saints, graciés, en paix. Mais ça, il rappelle à toute église à laquelle il écrit dans le Nouveau Testament, y compris dans les cas des églises les plus troublées. Mais ici, il y a une dimension spéciale de son amitié avec les Philippiens qu'on ne retrouve pas dans d'autres épîtres. Verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie. » À chaque fois que Paul se met à genoux pour prier pour ses amis, il ne peut pas empêcher la joie de jaillir de son cœur. Et aussi une reconnaissance profonde, car il sait que cette amitié spéciale est un don précieux de Dieu. En fait, toute la lettre déborde de joie et de reconnaissance. Pourquoi cela? Il continue, « Je ne cesse de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » L'expression « la part que vous prenez » traduit un mot grec qui signifie « participation » ou « partenariat ». Ils participent, ils sont partenariat dans l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire « participer à l'Évangile » Il y a un indice dans le chapitre 3, on va voir dans quelques semaines. Paul, il évoque ses tentatives du passé de gagner la faveur de Dieu par ses propres efforts. Mais il considère tous ses efforts comme une perte, comme des ordures, il dit, afin d'être trouvé en Christ, être revêtu de sa justice. Et donc, être trouvé en Christ, revêtu de sa justice, c'est ça la participation à l'Évangile la plus fondamentale. C'est ce qui nous sauve. Sans cela, tout le reste n'a pas de sens. Mais il y a une autre forme de participation à l'Évangile qui domine toute la lettre. Et c'est ça que Paul met en avant ici, dans le chapitre 1. Verset 7, il explique, « Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées. » Parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Paul parle ici de sa mission d'annoncer l'Évangile partout pour que les gens puissent croire en Jésus et être sauvés. C'est une mission glorieuse, mais aussi coûteuse. À cause de la proclamation de l'Évangile, Paul est en chaîne, en prison. Il aurait pu être triste et découragé en prison. Mais non, on voit, il est joyeux, il est reconnaissant. Pourquoi? Ben, dans ces versets, parce que les Philippiens sont ses partenaires, non seulement en tant que frères sauvés en Christ, mais aussi en tant que partenaires dans sa mission et même dans ses souffrances. Il évoque, je crois, le don financier que l'Église lui avait envoyé, dont il va parler dans le chapitre 4. Il est profondément touché, encouragé par ce geste, d'abord parce que ça démontre leur amour pour lui. Ils auraient pu avoir honte d'être associés à un prisonnier, mais non, ils continuent à se montrer solidaires avec lui dans ses souffrances. Deuxièmement, ça démontre aussi leur souci pour la mission de l'Évangile. Ils sont prêts à joindre le geste à la parole, à subir le coup d'une manière très concrète de soutenir son ministère. Et je pense qu'ils participent à son ministère dans un autre sens aussi. Dans chapitre 1 et verset 27, Paul veut qu'ils combattent pour la foi de l'Évangile dans leur propre ville. Ils essaient de vivre pour rendre honneur à l'Évangile, pour annoncer l'Évangile au sein de leur propre ville païenne. Peut-être qu'ils sont même en train de proclamer l'Évangile à Philippe. En tout cas, ils sont certainement en train de subir la persécution eux-mêmes. Et donc, Paul les voit comme des partenaires parce qu'ils sont prêts à travailler et à souffrir pour la même cause. Pas surprenant qu'il les chérit tellement. Vous connaissez le livre ou le film Le Seigneur des Anneaux, l'un de mes préférés. Le premier livre ou film de la trilogie s'appelle « La communauté de l'anneau ». C'est l'histoire de 9 amis qui participent à la mission de détruire l'anneau unique. C'est une mission coûteuse, mais le sacrifice et la solidarité sont des thèmes récurrents. Quand l'un des personnages principaux, Frodon, accepte la tâche de porter l'anneau unique jusqu'au pays de l'ennemi, les 8 autres personnages, l'un après l'autre, lui promettent leur partenariat. « Tu as mon épée, tu as mon arc, tu as ma hache. » Quand Frodon pense devoir continuer la mission toute seule, son meilleur ami Sam le poursuit. « Je me suis promis, Frodon. Ne le quitte pas, Sam, ne le quitte pas. » Et quand les deux amis pensent être sur le point de mourir dans le pays de l'ennemi, Frodon dit à Sam, « Je suis content que tu es avec moi, Sam, ici jusqu'à la fin. » C'est touchant de voir la solidarité dans une mission coûteuse, mais précieuse. C'est un peu le sentiment que Paul a envers les Philippiens. Les chrétiens, nous sommes la communauté de l'Évangile et nous travaillons ensemble dans cette mission coûteuse, mais précieuse. Et si Paul est joyeux et reconnaissant pour le soutien et la solidarité, c'est parce que c'est le signe, verset 6, que Dieu a commencé en vous une bonne œuvre. Et verset 7, leur participation est même un signe de la grâce de Dieu. Vous voyez ça? Quand on pense à la grâce et l'œuvre de Dieu, on pense à juste titre de sa grâce qui nous sauve, de son œuvre du salut, mais on pense rarement à la participation à l'Évangile, combien moins la souffrance qu'en mettant une œuvre de grâce en nous. Mais c'est le même constat dans le verset 29, plus loin. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Et dans 3:10, Paul veut connaître la communion, c'est le même mot pour participation, de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Vous voyez, participer à l'œuvre de la grâce de Dieu, ce n'est non seulement prendre part au salut qu'il offre, mais aussi accepter de prendre part à sa mission et à ses souffrances. On doit accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Nous suivons un roi crucifié et tout chrétien doit être prêt à souffrir avec et pour son roi et ainsi devenir conforme à lui. En effet, cet être parle beaucoup du besoin de s'humilier, de se sacrifier pour servir Jésus et les autres pour la cause de l'Évangile. Ce n'est pas une option facultative pour les chrétiens zélés ou les pasteurs ou les missionnaires. Ça fait partie de l'offre du salut. C'est pourquoi c'est tellement central dans cette lettre. Après tout, Jésus lui-même a dit, vous connaissez ces versets, j'imagine, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdre sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » On ne peut pas être un chrétien sans vivre et souffrir pour l'Évangile, en rendant honneur à l'Évangile par notre manière de vivre, en restant fidèle à l'Évangile dans la persécution, et oui, en partageant l'Évangile. C'est l'un des plus grands privilèges de la vie chrétienne. Si on accepte de vivre et de souffrir pour l'Évangile, c'est donc un signe que nous sommes des chrétiens authentiques, que Dieu est à l'œuvre en nous. Comme Paul, nous devrions être joyeux et reconnaissants si nous voyons les signes chez nous-mêmes ou chez les autres. Est-ce que tu es un participant, un partenariat dans l'Évangile? Non seulement parce que tu as accepté l'Évangile pour ton salut, mais parce que tu acceptes de participer à la mission de l'Évangile, au point d'accepter de souffrir pour Jésus. Alors, si c'est le cas, réjouis-toi, Dieu est à l'œuvre en toi. Et je ne dis pas que tu dois forcément partir dans annoncer l'Évangile à une tribu dans la jungle ou mourir en martyr pour être un vrai chrétien. Non, je regarde dans cette salle, la grande majorité dans cette salle. Je peux dire avec confiance que Dieu est à l'œuvre en vous. Je vois des gens ici qui sont prêts à donner leur argent pour soutenir le ministère de l'Évangile dans cette église et dans d'autres pays. Je vois des gens qui se montrent solidaires avec des chrétiens persécutés, qui les soutiennent par la prière ou par leurs dons. Je vois des gens qui s'humilient pour servir d'une manière pratique en faisant de l'installation ou en faisant le nettoyage pour que l'Évangile soit annoncé ici. Je vois des gens qui ont donné leur temps, leur énergie, leur jour de congé pour aider avec les événements lors de notre semaine d'évangélisation en mars. Je vois des gens qui ont été prêts à sortir dans les rues pour annoncer l'évangile. Je vois des gens qui sont prêts à témoigner à leurs collègues malgré le risque d'être méprisés ou exclus ou de perdre une promotion. Et oui, je vois aussi des gens qui prient pour l'avance de l'évangile. Et je vois aussi des gens qui ont été prêts à sacrifier leurs ambitions personnelles pour devenir pasteur ou missionnaire à temps plein. Vous voyez les preuves de la grâce de Dieu à l'œuvre parmi nous. N'est-ce pas beau de travailler ensemble, mes amis, d'être partenaires qui participent ensemble au plus beau projet? Réjouissez-vous et remerciez le Seigneur. Nous sommes la communauté de l'Évangile. Voici la deuxième chose que nous devons apprendre des Philippiens. Jésus revient viser l'essentiel. Jésus revient viser l'essentiel. Si les Philippiens sont exemplaires, Paul ne le prend pas pour acquis. Bien que d'origine grecque, la ville de Philippe on avait accordé à la ville le statut d'une colonie romaine, et donc la ville bénéficiait des mêmes avantages fiscaux des villes romaines, mais elle avait aussi adopté les dieux romains ainsi que le culte de l'empereur. Affirmer que Jésus est le seul sauveur et seigneur, deux titres réservés pour l'empereur, était très risqué. Ce n'est probablement pas par hasard que Paul les appelle des citoyens du ciel, 3:20. Ça devait être tentant de s'afficher comme citoyen romain au lieu de citoyen du ciel et ainsi éviter la honte, le conflit, la persécution. De plus, des faux enseignants essayaient de persuader les Philippiens de valoriser les œuvres de la loi juive au lieu de la foi en Christ. Pour faire court, ça devait être tentant de valoriser la participation aux choses respectées de ce monde au lieu de la participation à l'œuvre d'un roi crucifié. Ils ont fait un bon départ, mais ça va être dur de continuer sur le long terme, dur de maintenir le désir de participer à un projet tellement coûteux au lieu de se donner à des projets plus respectés, plus sécurisants. Ce serait facile de se dire, j'ai fait tellement pour Jésus. Il comprendra si je lâche un peu. Je suis un vrai chrétien. Donc tout va bien se passer. Et c'est pourquoi Paul se tourne vers la prière. Il sait que leur besoin ultime, verset 10, c'est d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Leur besoin ultime, c'est de persévérer pour le jour de Christ. Le retour du Christ, et non seulement de persévérer, mais de porter du fruit, le fruit d'une vie sainte pour Jésus. Non pas parce que ce fruit nous sauve, non, Dieu nous sauve par pure grâce, mais parce que Dieu nous sauve afin de vivre une vie sainte. Ça fait partie de l'offre du salut. Tout vrai chrétien veut porter du fruit pour son Seigneur. Peu importe ce qu'on pense avoir fait pour Jésus par le passé, si on l'abandonne, ça révèle qu'on ne l'a jamais vraiment accepté comme Seigneur. Quand Jésus revient, on ne sera pas parfait, bien sûr, mais est-ce qu'il nous trouvera toujours en train de le suivre fidèlement, en train de chercher la sainteté? Si Paul prie ainsi, ce n'est pas parce qu'il a peur qu'on va tomber. Au contraire, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Voici l'un des plus beaux versets dans le Nouveau Testament pour l'assurance du salut. Nous avons déjà remarqué que notre participation à l'Évangile est un signe de l'œuvre de la grâce de Dieu. De même, si nous devons persévérer, ce sera grâce à l'œuvre de Dieu en nous. Une fois que Dieu a commencé une œuvre, il ne la laisse pas inachevée. Les hommes laissent parfois le projet inachevé. La construction de l'énorme église Sagrada Familia. J'ai demandé à mes amis espagnols, j'ai dit c'est juste Sagrada Familia en Barcelone. Vous connaissez la grande église. Ça, la construction a été commencée en 1882 et reste inachevée aujourd'hui, 140 ans plus tard. Pour des raisons qu'on ignore, le compositeur Schubert n'a jamais fini sa 8e symphonie, qui est désormais connue sous le nom la symphonie inachevée. C'est très belle, d'ailleurs. Les chrétiens sont aussi des œuvres inachevées, loin de la perfection. Mais le grand artiste a une vision magnifique pour chacun d'entre nous et pour son peuple dans son ensemble. On va y arriver par sa grâce et sa puissance. Dieu fera en sorte que tout chrétien persévère et porte du fruit pour le jour du Christ. Ça ne veut pas dire qu'on peut lâcher. Il y avait une expression en anglais dans certains milieux chrétiens il y a quelques années. « Let go and let God ». Donc, lâcher et laisser Dieu. Je comprends. L'idée, c'était de faire confiance en Dieu. Mais c'était déséquilibré. C'était comme pour dire « on peut lâcher ». Mais non, on ne peut pas lâcher. Au contraire, nous devons lutter pour persévérer. Mais comme Paul dit dans 2 Et verset, chapitre 2, versets 12 et 13, « Avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Il fait en sorte qu'on va persévérer. Tout en sachant que Dieu promet de nous garder, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire afin de persévérer? Paul a la réponse, verset 9, « Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » Notre amour pour Jésus, pour les uns pour les autres, doit grandir. Et non pas un amour sentimental dans un vide, mais un amour fondé sur la vraie connaissance de Jésus. Mais pourquoi? Il continue, « Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important ou excellent. » C'est quoi ce qui est excellent? Ben, c'est sûrement la participation à l'Évangile. La participation au salut que l'Évangile nous offre, oui, mais aussi une vie qui honore et avance l'Évangile. C'est ça le projet le plus excellent. Vous voyez la logique des versets 9 et 10? Amour et connaissance grandissante de l'Évangile veut dire apprécier et valoriser davantage la mission, veut dire persévérer, porter du fruit jusqu'au retour de Jésus. C'est ça la logique. Je me souviens de quand j'ai appris à mon fils Nathan comment rouler à vélo. Je lui disais, si tu restes immobile, tu vas tomber. Pour ne pas tomber, il faut avancer. Et ça, c'est pareil, je vais tomber là, je pense. C'est pareil dans la vie chrétienne. On peut avoir des hauts et des bas, bien sûr, même des saisons où on stagne, même on semble faire marche arrière. On peut toujours revenir et réessayer avec la grâce de Dieu, bien sûr. Mais stagner est quand même dangereux. C'est comme si on ne s'intéresse plus à porter du fruit pour Jésus. De petit à petit, on commence à perdre notre amour pour Jésus. On commence à perdre notre intérêt pour la mission de l'Évangile. On commence à se demander si ça vaut la peine. On commence à trouver d'autres projets plus passionnants, plus sécurisants. Tôt ou tard, ça pourrait nous amener à nous détourner de Jésus. Il faut grandir, il faut avancer dans notre amour et notre connaissance de Jésus, et ainsi dans notre passion pour sa mission, et ainsi persévérer et porter du fruit. Je sais que ce n'est pas facile. Le monde nous offre tellement d'autres projets passionnants et sécurisants, moins coûteux. Et bien sûr, ce n'est pas un problème d'être passionné de sport, de travail, de voyage, de musique, de la famille, des causes sociales, etc. Je suis passionné de la musique. Quand je me lève le matin et je sais que c'est un jour où je vais composer ou enregistrer un nouveau chant, je me réjouis, c'est motivant, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ces projets sont plus captivants que le projet de l'Évangile? C'est ça la question. Après tout, vivre pour rendre honneur à l'Évangile, vivre pour avancer l'Évangile est coûteux. Si je dis cela, c'est parce que je comprends. Parfois, moi, je me demande, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je veux imiter un roi crucifié en me sacrifiant, en m'humiliant pour le servir, pour servir les autres? Pourquoi rester fidèle à la Bible dans le climat actuel, devoir toujours nager à contre-courant, être accusé d'intolérance, d'arrogance, d'être dépassé? Pourquoi s'afficher comme chrétien au travail et risquer d'être méprisé, exclu, perdre une promotion? Pourquoi donner de l'argent quand on n'a presque pas assez pour vivre? Pourquoi sacrifier une grasse matinée pour s'associer à une petite bande de gens peu impressionnants, désolé, moi aussi, qui se réunissent dans une salle un peu moche, afin de chanter et d'écouter une prédication ennuyeuse qui va durer plus que 30 minutes, je pense. Pourquoi sacrifier une soirée tranquille devant Netflix pour s'impliquer dans un événement d'évangélisation, afin d'annoncer un message à des personnes qui ne s'y intéressent probablement pas? Pourquoi trouver du temps dans mon arrière chargé pour prier pour l'avance de l'Évangile? Et pourquoi est-ce que j'ai abandonné mon rêve, mon ambition d'avoir une carrière dans la musique afin d'être un pasteur en Belgique? Est-ce que je suis fou? Est-ce que ça vaut la peine? Je me pose cette question, honnêtement. Est-ce que j'ai raté l'essentiel dans la vie? Et on commence à trouver des moyens de s'excuser. Aller à l'église de temps en temps, ça suffit, non? C'est très bien pour les pasteurs et les missionnaires et les chrétiens zélés de faire de l'évangélisation, mais ce n'est pas pour moi. J'ai un travail exigeant, j'ai ma famille, j'ai des soucis financiers, j'ai un horaire chargé, j'ai un tempérament introverti, j'ai entendu ça, j'ai des problèmes de santé, je faisais plein de choses pour l'évangile par le passé, mais maintenant je suis trop vieux, c'est le moment de passer le bâton à quelqu'un de plus jeune et dynamique. Je suis quand même un chrétien, Jésus comprend, il comprend que je l'aime, je le sers dans mon cœur, il comprend si je lève le pied, il veut que je sois heureux après tout. L'un de mes films préférés est Amazing Grace, je ne sais pas quel est le titre en français, mais vous connaissez le film? C'est basé sur le cantique, bien entendu, grâce infinie. Le film raconte l'abolition de l'esclavage au début du 19e siècle en Angleterre, un combat mené par William Wilberforce, un politicien mais aussi un chrétien. C'est un film très motivant. Quand Wilberforce se lève devant le prince d'Angleterre pour contester la vente de son esclave africain, on dit oui. Quand il risque sa santé pour voyager, pour promouvoir sa cause, on dit oui. Quand l'un de ses opposants a un changement de cœur et accepte de perdre sa position et sa réputation pour rejoindre les abolitionnistes, on dit oui. Et mon cœur vibre avec le désir de faire partie de quelque chose qui compte. J'ai pas envie de passer ma vie devant Netflix. Et vous? Et si l'abolition de l'esclavage était un projet très passionnant, très excellent, l'Évangile est encore plus excellent. Il faut combattre notre léthargie. Il faut se dire non, je ne suis pas fou. L'Évangile est le projet le plus excellent. Vivre pour d'autres projets, ce serait de rater l'essentiel dans la vie. Rappelez-vous trois choses. 1. Rappelez-vous que Jésus appelle tout chrétien à vivre pour lui en tant que Seigneur, à vivre comme lui a vécu, y compris dans la souffrance et le sacrifice, à ne pas avoir honte de lui, à valoriser ce que lui valorise, à mettre en avant son évangile dans nos actions, nos mots, nos priorités. Est-ce qu'on ose suggérer que les projets du Seigneur ne valent pas la peine? Rejeter ces projets, ce serait de rejeter le Seigneur. Quand il revient, est-ce que nous serons en train de servir son évangile ou nous-mêmes? 2. Rappelez-vous que cette vie sur terre n'est qu'une goutte comparée à l'océan de l'éternité. Après 1 million d'années, qu'est-ce qu'on va regretter? Qu'on n'a pas eu assez de vacances aux Caraïbes? Qu'on n'a pas pu faire des grasses matinées les dimanches? Qu'on a dû subir la moquerie et l'exclusion pendant quelques courtes années? Ou qu'on n'a pas vécu de toutes nos forces pour Jésus et l'Évangile? Dans les mots de Jésus, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Ou Romains 8, 18, J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. 3. Rappelez-vous le fruit de vos efforts. On est en train de proclamer par nos mots et d'appuyer par nos actions le seul message qui sauve les âmes pour toute éternité. Imagine que tu arrives au ciel et tu rencontres quelqu'un qui est là à cause de ton témoignage ou parce que tu t'es impliqué dans un événement d'évangélisation. Tu ne vas pas dire « Ah, mince, j'aurais dû rester à la maison regarder Netflix cette soirée-là. » Non, tu vas te réjouir pour toute éternité. Et au final, verset 11, le fruit de nos efforts, c'est à la gloire et à la louange de Dieu. Le grand jardinier, c'est très bien que Samuel a employé l'analogie d'agriculture. Le grand jardinier est en train de cultiver avec patience son jardin. On ne voit pas encore le fruit, mais on est en train de planter et arroser les graines, la semence. Ce jour-là, nous verrons le fruit dans chacun de nos vies, le fruit de la sainteté, mais aussi le fruit des âmes sauvées par nos efforts. Et il sera glorifié pour toute éternité, pour ce qu'il a accompli dans nos vies et par nos labeurs. Est-ce que vous désirez ça plus que toute autre chose? D'être rempli de fruits lors du jour du Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Ne méprisons pas ce qui est excellent en faveur des choses éphémères de ce monde. Pour finir, j'ai bien dépassé 30 minutes là, excusez-moi. Mais pour finir, à quoi est-ce que ça ressemble dans la pratique? Ça va être différent pour chaque personne. On va l'explorer en plus de détails dans les semaines à venir aussi, je pense. Et il faut prendre en compte nos forces, nos faiblesses, nos contraintes, nos tempéraments, nos circonstances. Je comprends. Vous avez votre travail, vos familles, vos limitations, le besoin de vous reposer, bien sûr. Je ne vais pas vous dire exactement ce que vous devez faire ou exactement combien de temps vous devez y consacrer. Mais tout le monde peut et doit faire quelque chose. Avec les forces et les ressources que vous avez, et le faire de tout cœur, même si c'est coûteux. Peut-être que c'est donner de l'argent à l'Église ou à l'une des missions que nous soutenons, l'Institut public de Bruxelles, Porte ouverte, les GBU, les Amis du Nord Kivu. Accepter cette invitation de faire partie de l'équipe d'installation, même si tu n'aimes pas trop te lever tôt les dimanches. Devenir mono de l'école de dimanche ou un animateur du groupe de quartier, même si ça veut dire consacrer du temps pour te former, pour le faire. Je connais des gens qui sacrifient quelques jours de leurs vacances pour être animateur au camp Attraction ou au camp UGEB. Je connais quelqu'un dans cette salle, je pense, qui a organisé un événement pour ses collègues à Noël où l'Évangile a été expliqué. Je connais des gens qui ont rejoint des clubs sportifs afin de partager l'Évangile. Et ne méprisons pas les petits gestes invisibles non plus. Je connais des femmes très prises à la maison avec des enfants bas âge, mais qui accueillent des nouvelles personnes de l'Église chez elles ou qui cuisinent des plats pour des soirées d'évangélisation, etc. Je pense à ma grand-mère qui a 101 ans et ne peut plus vraiment sortir de la maison, mais elle prie tous les jours. Tu peux toujours prier pour l'avance de l'Évangile, pour le progrès des chrétiens dans la foi et pour le salut d'âmes perdues. Et oui, je connais aussi des gens qui ont été prêts à sacrifier leurs rêves et leurs ambitions personnelles afin de se consacrer un temps plein au ministère de l'Évangile. Je connais un homme qui aurait pu avoir une carrière en tant que joueur professionnel de rugby, mais il a choisi de laisser tout ça pour être pasteur. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même un besoin criant ici en Belgique et dans le monde. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui devrait considérer la possibilité de devenir pasteur ou de partir en mission vers les peuples non atteints. Ce serait un moyen précieux de t'impliquer dans la mission du Seigneur. Mais quoi qu'on fasse, participer à ce plus beau projet, on ne va pas le regretter. Jésus revient. Visez l'essentiel. Prions. Seigneur, merci d'abord de nous avoir sauvés. Merci pour notre participation à l'Évangile en tant que tes enfants revêtus de sa justice. Sans cela, rien ne compte. Mais merci aussi pour notre participation à l'Évangile en tant que partenaire dans participant à tes souffrances, à ta mission. Seigneur, c'est coûteux. On a du mal parfois à voir pourquoi ça vaut la peine. On se croit fou. On est tellement distrait par les autres projets du monde. Mais aide-nous, Seigneur, à être saisis, captivés par la beauté de Jésus, de l'Évangile et de cette mission précieuse. Aide-nous à subir le coup et de travailler ensemble en tant que partenaire solidaire, la communauté de l'Évangile, pour que ton nom soit glorifié et que les âmes soient sauvées ici à Bruxelles et ailleurs dans le monde. C'est notre prière et notre joie, notre privilège, Seigneur, jusqu'au jour de ton retour. Et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.